cadre de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle intitulée « Sans tabou » qui s'est déroulée à l'Université d'Artois et co-organisée par deux associations étudiantes, LHD Bloc et les Roadrunners, on vous propose une interview de Sophie Kuhn qui intervenait lors d'une conférence à l'Université d'Artois autour de son livre « Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée » qui décortique les impacts physiologiques, psychologiques, sexuels et professionnels de la ménopause, déconstruit les archétypes et propose de changer de regard sur cet épisode de la vie des femmes. Entretien donc avec l'autrice pour en savoir plus. Sophie Kuhn, ce livre, il a vu le jour quand exactement ?
En fait, le livre est paru le 29 septembre 2021. J'ai commencé à l'écrire, à réfléchir il y a un moment, et je l'écris en 2021. C'était un bébé du confinement numéro 2, on va dire. Il a pour objet, en fait, de déconstruire vraiment tous les clichés et de re-réfléchir la ménopause d'une manière, je dirais, actuelle.
Vous avez été mise en ménopause artificielle à 47 ans, donc en 2016, c'est ça ? Pourquoi exactement ?
En fait, j'avais une suspicion de cancer de l'endomètre, donc j'avais un gros souci et des saignements qui ne s'arrêtaient pas du tout. Donc la seule solution, on a essayé plusieurs traitements et la seule solution pour bloquer ce saignement était de me placer en ménopause artificielle. Comme j'avais aucune idée de ce qu'était la ménopause, aucun imaginaire, enfin pour moi, c'était une piqûre, je ne savais pas ce que c'était que la ménopause, forcément j'ai dit oui. Et au bout de 15 jours, je me suis retrouvée avec tout un tas d'effets indésirables, même très 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 forts. Donc on peut dire que je me la suis prise comme ça d'un seul coup en 15 jours en pleine figure. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, ok, c'est quoi cette histoire ? J'ai googlisé. Parce que forcément, moi je suis une fille du digital, donc je voulais savoir. Et quand j'ai vu vraiment la façon dont on présentait la ménopause, vraiment comme quelque chose de froid, médical, là j'ai flippé parce que je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une maladie et j'ai commencé à m'interroger. Donc c'est un peu, le démarrage de tout, et du compte Instagram et du livre. C'est ok, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se cache surtout derrière tout ça ? Qui est donc cette ménopause ?
Alors, suite à cette piqûre, comme vous le dites, vous étiez KO sur votre canapé. Oui. D'ailleurs, vous vous adressez à la ménopause en la tutoyant aussi dans votre livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là dans votre corps ? Il y a eu des changements, j'imagine.
Ce qui s'est passé, c'est surtout que j'ai eu l'impression que mon corps m'appartenait plus et il y avait quelque chose comme Hulk, enfin quelque chose vraiment qui prenait le dessus et j'avais plus main mise. Donc, je comprenais pas. J'avais des douleurs articulaires, je pleurais, très fatiguée, et puis une sécheresse vaginale hyper intense, hyper importante, du jour au lendemain presque. Enfin, tout s'est desséché, tout s'est replié. Voilà. Donc, je sens un corps qui se rigidifie quelque part, enfin qui se replie et que je ne maîtrise plus.
Dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est, on l'a bien compris, vous dédiabolisez un peu cette ménopause en mettant l'accent sur c'est une seconde vie, en fait. Mais il y a des choses quand même qui sont assez incroyables. Moi, j'ai relevé des choses, même moi, en tant qu'homme, en plus, je ne m'attendais pas. Notamment ce Charles de Gardanne, qui dit des choses absolument monstrueuses, ou je ne sais pas comment dire ça, mais notamment avec cet épisode de la saignée. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qui est ce personnage qui fantomatise un peu votre livre ?
Alors en fait, il fantomatise pas, je crois qu'il habite un peu, c'est mon personnage majeur. donc Charles de Gardanne, parce que moi au début, en fait, quand j'ai commencé à faire les recherches sur la ménopause, pour moi, ménopause, c'était un mot qui existait depuis l'Antiquité. C'est un mot grec, donc je pensais qu'il était usité depuis toujours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fût créé seulement depuis 1821 par un médecin français qui s'appelle Charles de Gardanne. À partir du moment où je suis tombée sur son nom, à plusieurs reprises dans différentes lectures, Charles de Gardanne, Charles de Gardanne, Charles de Gardanne, je me suis dit, tiens, c'est qui ce mec-là ? Donc je suis allée chercher et j'ai lu tout son traité. Et effectivement, il a scopé un peu la ménopause. D'abord, c'est lui qui a inventé le mot, donc il a créé un nouveau territoire, un néologisme. Et après, il a scopé la ménopause vraiment dans tous ses aspects, en la dépeignant de façon assez évidente, je dirais. Tous les clichés qu'on a aujourd'hui sur la ménopause étaient là, écrits noir sur blanc, Maintenant, il faut contextualiser. À l'époque, on était au 19e. Voilà, donc c'est une écriture du 19e siècle avec les connaissances physiologiques et anatomiques qu'il avait sur le 19e, où pour lui, sa connaissance de l'époque, sa croyance de l'époque était que tout venait de l'utérus et qu'en fait, un utérus qui ne saignait pas était un utérus qui contenait le sang, donc qui le conservait et qu'il fallait absolument que le sang s'évacue, donc la saigner. On avait aussi super sympathique.
Des sangsues quand même.
Sur la vulve, la scarification, c'était canon, quoi. Donc là, je me suis dit, mais finalement, là, aujourd'hui, on est en train de pousser des cris pas possibles en se disant oh là là, le traitement hormonal, mais à côté des saignées et des sangsues sur la vulve, finalement, on est quand même super chanceuse.
Il y a eu aussi cette rencontre avec Brigitte Letombe, hein, gynécologue, psychosomatricienne, andrologue et sexologue également, qui est importante, j'imagine, pour vous aussi. C'est une belle rencontre.
Oui, c'est plus, je dirais, calme que Charles de Gardanne. Hein. Ah oui. Charles de Gardanne, c'est quelque chose de là, voilà, majeur. Oui, oui, la rencontre avec Brigitte, qui était la rencontre avec tous les experts qui m'ont accompagnée. Parce que ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai pris chacun des axes qui m'intéressaient ou qui me touchaient et qui étaient aussi développés dans le traité de Charles de Gardanne pour en fait un peu interroger des experts par rapport à ce que Charles de Gardanne disait, pour savoir si, ok, 1821-2021, on en est où aujourd'hui ? Est-ce que ce mec est complètement à la ramasse ? Ou est-ce qu'au contraire, il était visionnaire ?
Alors, ce qui est intéressant aussi également, c'est que vous avez des QR codes dans votre livre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes médicaux, et quand on lit, on se dit, oulala, comment comprendre ça ? Et finalement, quand on va sur vos QR codes, avec tout ce qui était images, photos, etc., on comprend mieux. Ça, c'est un truc qui match normalement, rien que pour la jeunesse d'ailleurs.
Oui, alors en fait, cette histoire de QR code, comment c'est né, d'ailleurs de compte Pinterest, parce qu'en fait, je suis une femme du digital, mais il n'y a pas que ça, c'est que moi j'ai besoin d'images pour travailler. Et quand j'ai commencé à travailler notamment deux sujets sur le livre, notamment la partie regard sociétal art et la partie mode, j'étais donc en entretien, on était en confinement, hein, donc j'étais en entretien téléphonique avec les deux experts, hein, et on a commencé à créer une forme de bibliothèque, puisqu'on avait besoin d'être persuadé, enfin d'être sûr en tout cas qu'on parlait bien des mêmes choses et qu'on ressentait bien les mêmes choses. Donc on s'envoyait par mail les photos. Et là, du coup, je me suis dit, je vais faire un compte Pinterest où je vais commencer à faire les tableaux pour que quand on se parle au téléphone, on puisse échanger sur les mêmes sujets. Et de là sont nées les idées, effectivement, de à chacun des chapitres associer ce que moi j'appelle un vision board, puisque c'est un livre qui est vraiment fait pour déconstruire, pour recréer un imaginaire positif. Je vais reconstituer un imaginaire positif et par l'écrit et par l'image, parce qu'il faut bien qu'on voit. J'ai pas eu les moyens de faire l'exposition du livre, mais voilà globalement ce que j'aurais voulu faire. T'approprier ta matière, c'est même éventuellement entendre. Si j'avais pu mettre des sons, vraiment, il fallait que ce soit sensoriel, parce que si c'est pas sensoriel, pour moi c'est pas ressenti. Donc c'est comme ça que c'est né. Donc à chaque chapitre, je termine par un vision board, ou en tout cas une description de voilà ce que j'ai appris. Et à partir de là, j'ai fait cette bibliothèque d'images, donc qui est contenue dans un compte Pinterest, où chaque chapitre a son item, quoi.
Et vous avez justement à ce niveau-là des retours de vos lectrices, lecteurs sur ces vision boards. Ils vous disent quoi exactement ?
Alors c'est bizarre, j'ai beaucoup de retours sur le livre. Et d'ailleurs, il faudrait que je les interroge. Personne ne me parle des vision boards. Et pourtant, j'ai travaillé comme une folle. Et je me suis dit, ça va peut-être les aider à poser des mots sur les images aussi. Parce que notamment, je pense à la partie mode, la partie art. Il y a des visuels qui ne sont quand même pas piqués des hannetons, quoi. Et je me disais, oui, forcément que ça allait susciter le débat. Et en fait, non, pas les vision boards. Enfin, pas les QR codes, en tout cas. Ouais.
Alors, vous décloisonnez également l'image de la femme, notamment dans la publicité, qui met en scène des femmes de 50 ans. Et généralement, c'est soit pour des serviettes de protection urinaire, etc. Et c'est vrai qu'on ne voit pas énormément. Du coup, comment vous êtes rendu compte, évidemment, mais j'imagine que vous n'êtes pas la seule à ce niveau-là.
En fait... Il y a un moment donné, mais il y a longtemps, hein, je parle de ça, il y a 10-15 ans, à chaque fois que je voyais les pubs sur les fuites urinaires, j'étais là, oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc ? C'est pas possible. Et puis quand j'ai commencé à arriver à avoir ce souci-là, donc à approcher de la ménopause, en plus comme c'était assez violent, et que j'ai commencé à voir donc justement ces publicités et à me rendre compte que les publicitaires voulaient s'adresser à moi, Là, je me suis dit, merde, il y a un problème, parce que moi, je me vois pas du tout comme les femmes qui sont dans la pub. Et surtout, je trouve que tout est... rien nous parle, quoi. Enfin, on en est où, là ? Donc, oui, je sais pas trop comment répondre, parce que je trouve que les publicités sont pas... elles sont pas joyeuses, quoi. Elles sont assez médicales, froides, toujours, et puis surtout dégradantes, quoi. Ouais.
J'ai noté quelques phrases également. Les femmes seraient moins nombreuses que les hommes à considérer que la ménopause devait être prise en compte dans le cadre du travail. Et ça, c'est un gros souci encore à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ?
Les femmes, elles ont beaucoup de difficultés parce que c'est vrai que tout au long de notre parcours, tout est compliqué. La grossesse est compliquée. Quand on doit annoncer qu'on est enceinte, c'est la panique. Quand on accouche, on a toujours peur de ne pas récupérer le job à la fin. Enfin, en fait, notre parcours... au travail est compliqué. Donc, en plus, au moment où on arrive à la ménopause, le fait de pouvoir parler de la ménopause tranquillement au travail, ça peut être aussi assez stigmatisant. Donc, les femmes refusent absolument d'en parler, oui, parce qu'elles ont peur, une fois de plus, d'être vraiment mises au placard. Déjà, c'est un moment où on est mise au placard. Là, elles se disent non, il ne faut pas stigmatiser parce qu'on fait quoi là ? On se tire une balle dans le pied.
Et pourtant, paradoxalement, quand on parle des femmes ménopausées après 50 ans, il y a plus d'enfants qui voilà. Donc du coup, les patrons, ils devraient dire « Ah ben, c'est génial !» Et pourtant, ça se passe pas comme ça.
Oui, alors ça aussi, c'est pareil, c'est un peu une idée reçue, parce que comme aujourd'hui, effectivement, on a nos enfants de plus en plus tard, justement, on peut vraiment avoir des enfants à la maison, on peut avoir besoin de les nourrir et de continuer à payer et ou des études ou autre. Bon, je dirais qu'en plus, là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, les enfants peuvent être de retour. Hein, donc voilà, donc le syndrome d'une vie, on n'y est pas tant que ça. Moi, je ne mettrais pas forcément le... Oui, alors il y a l'accent sur le fait que, en tout cas, si on n'a plus d'enfants ou on a des enfants, les enfants sont plus en bas âge. Donc ça nous laisse quand même normalement une plus grande mobilité. Ça, c'est vrai. Et la chose qui n'est pas du tout mise en lumière et qui n'est pas valorisée, c'est l'expérience. Parce que comme on est dans une société du jeunisme, on va toujours aller vers le plus vieux coûte trop cher, ou alors de toute façon, c'est le jeune qui sait gérer le digital, qui sait gérer les nouveaux enjeux. Et on ne s'appuie pas sur l'expérience finalement que l'on va... Et cette forme de puissance, parce que... Si j'essaie de définir la puissance, c'est au fur et à mesure de la vie, on a acquis cette expérience, donc on commence à avoir un recul, on a vu comment on avait réagi en cas d'échec, en cas de réussite, etc. On commence vraiment à se maîtriser, on maîtrise beaucoup, beaucoup de choses. Donc ne pas employer des femmes, enfin, je dis employer, ça peut être prendre des auto-entrepreneurs, ne pas en tout cas s'accompagner de femmes qui sont en pleine puissance, en pleine possession de leur capacité, c'est complètement, pour moi, dingue, quoi.
Pour terminer, j'ai encore deux petites questions. D'abord, est-ce que les avancées, justement, dans le contexte social, les gens, comment ils voient la ménopause aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore quelque chose de tabou ? Je ne vais pas non plus la comparer à l'andropause, qui on en parle pratiquement jamais. Comment ça se passe aujourd'hui pour les femmes ? Est-ce qu'elles sont mieux comprises qu'avant ? Ou est-ce qu'on les considère encore ? Ah, vous êtes ménopausée, vous servez plus à rien. Je suis désolée de le dire, mais c'est un peu ça, quoi.
Je pense que ça commence un tout petit peu, là. Depuis 2 ans, je vois des frémissements. Ça y est, on commence à en parler vraiment dans les journaux. Il y a de plus en plus de sujets. Dans les séries, les rôles de femmes de 50 ans commencent à être déjà de plus en plus variés aussi. Vraiment, elles ne sont pas toutes représentées de la même manière. Alors, si on parle de la ménopause, vraiment, elle est toujours assez stigmatisée. Je fais notamment référence à Sex and the City, donc, qui vient de sortir son dernier opus, And Just Like That, où la ménopause n'a été citée que 2 fois au long des 10 épisodes, et de manière vraiment toujours par le biais du symptôme ou de fausses croyances. Donc là, je me dis, la ménopause n'a toujours pas été comprise. En tout cas, elle n'est pas comprise comme un phénomène holistique. Si elle est encore scopée que comme un symptôme, c'est que en fait, les, Les scénaristes n'ont pas compris que c'était ça touchait toute l'écologie, toute l'économie de la femme. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils foutent déjà, c'est la première question. Mais bon, déjà, ça y est, il y a cette avancée-là. Maintenant, je pense que, ça reste à peu près au même stade au niveau du tabou. Je pense qu'il va falloir quelques années avant que les choses bougent vraiment. Ouais.
Auprès de la jeunesse, comment ça se passe lors de vos conférences? Parce qu'on sait et aussi qu'il y a d'autres maladies comme l'endométriose qui viennent, l'endométriose de type sévère. Hein. Il y a eu une intervenante qui est venue parler de son endométriose qui a 27 ans et on lui a dit si vous n'avez pas d'enfant avant 30 ans, c'est foutu. Elle a été ménopausée artificiellement. Là aussi, c'est un sujet qui est quand même assez délicat.
Ouais, j'en ai parlé pas mal pendant la conférence parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Moi, je dis que l'âge médian de la ménopause, c'est 51 ans. Si on arrive à la ménopause à 51 ans, c'est lucky you, c'est bien et c'est de la chance. Il faut justement pas... faut l'apprécier comme la chance que c'est parce que quand ça t'arrive à 27-30 ans, ça, c'est une autre histoire et j'en ai vraiment beaucoup parlé. Je suis assez sensible sur ce sujet, oui, parce que là, on est plus dans la même expérience de vie.
Mais comment ils réagissent justement? Ils réagissent éventuellement la jeunesse, les plus jeunes, parce que pour eux, la ménopause, c'est très loin.
Alors, pas forcément, justement. Alors, les jeunes réagissent super bien parce que la ménopause, c'est pas si loin, parce que ça concerne leur maman ou leur tante, ou enfin, quelqu'un auprès d'eux. Donc, en fait, ils la vivent de plein fouet, quelque part. Il y a ça, et ils sont super intéressés aussi, ils et elles, mais j'ai aussi des hommes, donc c'est pour ça que j'emploie, donc ils, elles, y'elles, s'intéressent vraiment à ce. À ce phénomène parce que tout aussi ce qui est l'hormone, la transidentité, ça les intéresse beaucoup. Donc, l'hormone les intéresse beaucoup, le corps les intéresse beaucoup et la discrimination, l'agisme aussi commence à les toucher. Donc c'est par un biais différent qui commence à vraiment s'ouvrir sur tous ces sujets. Ouais, ils sont assez militants avec de très très bonnes questions et surtout ils veulent comprendre veulent comprendre leur maman et parce que souvent j'ai des retours de ce qu'ils elles y elles voient sur leur maman, l'impact sur les divorces, sur les problèmes au boulot, sur les problèmes de symptômes pour les mamans, les problèmes de si un divorce, maman veut refaire sa vie, elle n'y arrive pas, elle perd en panique, elle se trouve moche, elle a grossi, ils me posent beaucoup de questions là-dessus. Ouais.
Et enfin, la question bonus, si vous aviez à donner un conseil pour cette seconde vie après la ménopause à des femmes qui nous écouteraient, ça serait lequel?
Ah oui, alors le premier, c'est surtout restez pas silencieux. S'il y a le moindre problème, allez chercher secours. Et puis après, surtout éclatez-vous, parce qu'il nous reste encore au minimum 40 ans à vivre, donc on se retient pas. Hein. Voilà.
C'était un entretien avec Sophie Kuhn, autrice d'un livre intitulé « Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée ». Elle intervenait pour témoigner et donner une conférence lors de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle qui s'est déroulée à l'université d'Artois et qui était co-organisée par deux associations étudiantes, LHD Bloc et les Roadrunners.